Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans Carnet de région, l'hebdomadaire collaboratif proposé par l'ensemble des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, c'est Delta FM Terre de Camargue qui en assure la rédaction en chef. Dans ce carnet de région, Radio Aviva revient sur l'affaire Ménard qui soulève la question de la légalité des statistiques ethniques ou religieuses, la visite de Myriam El Khomri, secrétaire d'État à la politique de la ville au quartier des Pré-Saint-Jean d'Alès par Radio Grille Ouverte, anime l'Olivier de la Paix pour construire le vivre ensemble entre les religions, un reportage Radio Alliance Plus. Ce carnet de région nous emmènera en Afrique aux côtés de l'association héroltaise Voûte Nubienne, distinguée par la fondation Nicolas Hulot, un sujet RCF Hérault, et RCF Hérault qui nous emmènera à Montpellier fêter des victoires sportives au féminin.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Robert Ménard fait encore parler de lui dans la presse régionale et nationale. Lundi soir, dans Mots croisés sur France 2, le maire de Béziers a déclaré détenir une statistique sur le nombre d'élèves musulmans dans les écoles primaires et maternelles de sa ville. Une statistique légalement impossible à réaliser en France. Le fichage des personnes selon leur appartenance religieuse est interdit. Alors quelles sont les raisons de cette interdiction? C'est la question de Grégory Éluy à Jean-Luc Bonnet, avocat de la LICRA à Montpellier.
Alors, les statistiques en fonction de l'origine ethnique, de l'appartenance, sont interdites en France depuis maintenant de très nombreuses décennies, puisque ça évoque d'ailleurs un très mauvais souvenir, souvenez-vous, les années 40, et ce à quoi servait ce genre de fichier en raison de l'origine ou de l'appartenance. En droit français, dans les fichiers qui supportent pour faire d'éventuelles statistiques, comme semble vouloir le faire M. Ménard, en fonction du nombre, si j'ai bien compris, d'enfants maghrébins dans les écoles de la ville de Béziers, ne peuvent qu'être proscrites et interdites. Par le droit français, ça se comprend aisément, parce que sinon, imaginez l'usage qui pourrait en être fait à un moment ou à un autre, selon que l'on se situe dans un système, j'allais dire, démocratique, ou que le système démocratique, à un moment donné, n'existe plus, comme ça a été le cas en 1940. En fait, ce qui est extrêmement préoccupant chez M. Ménard, ce sont ces fichiers permanents qui consistent effectivement à satisfaire un électorat réel ou supposé qui est le sien, et qui effectivement est un électorat réel ou supposé dont M. Ménard pense qu'il est raciste. Donc à partir de ce moment-là, dans son esprit, ça ne peut que plaire à cet électorat-là. Ça ne fait pas pour autant une politique pour la ville de Béziers qui permettra de redresser celle-ci sur le plan économique, social ou autre. Ça ne fait au contraire que dresser les uns contre les autres, ajouter, mettre le lieu sur le feu et participer au délitement social et un jour, pourquoi pas, à des actes de violence.
Jean-Luc Bonnet, avocat de la LICRA à Montpellier, répondait à Grégory et lui. La LICRA a porté plainte contre Robert Ménard, tout comme le MRAP ou la Maison des Potes, Maison de l'Égalité. S'il est reconnu que le maire de Béziers détient un fichier illégal, Robert Ménard encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement. C'était un sujet de Gilles Geoffrey et Grégory Éluy pour Radio Aviva.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Mardi 5 mai, la ville d'Alès a reçu la visite de Myriam El Khomri, secrétaire d'État à la politique de la ville. Une visite au quartier des Pré-Saint-Jean. Le quartier a fait l'objet du projet de rénovation urbaine en rue 1. Il fait partie des 200 quartiers prioritaires de la nouvelle politique de la ville, mise en place par le gouvernement pour 2015-2020. La réforme s'appuie sur des contrats de ville articulés autour de 3 piliers, 4 avec celui ajouté après les attentats de janvier, intitulé « Valeurs de la République et citoyenneté », comme le précise Myriam El Khomri au micro de Radio Grille Ouverte.
Le contrat de ville se fait autour de 3 piliers essentiels, la cohésion sociale, le développement économique et l'emploi, et le cadre de vie et la rénovation urbaine. Il y a un fil rouge à tout cela qui est la participation citoyenne. Nous avons laissé les acteurs du territoire décider s'ils voulaient faire un quatrième pilier sur les valeurs de la République ou si c'était un pilier transversal, parce que nous savons bien que dans la question également de la cohésion sociale, faire vivre les valeurs républicaines, comme nous l'avons vu tout à l'heure auprès d'une association qui a fait de l'apprentissage de la langue française, qui permet d'apprendre les valeurs de la République et de les faire vivre au quotidien, c'est aujourd'hui essentiel. Ce que nous ont montré les attentats de janvier, c'est qu'il y avait des fractures importantes dans notre société, et qu'il y avait des personnes qui étaient doublement discriminées, qu'il y avait, le Premier ministre avait eu des mots forts, notamment le mot d'apartheid, social, ethnique, territorial. Et on voit bien que, par exemple, la question de la mixité sociale, de l'offre accessible de logements sur toutes les villes, me semble être aussi des leviers importants. Suite aux attentats, il y a eu un comité interministériel à la l'égalité et la citoyenneté qui s'est tenu le 6 mars dernier, qui a permis de prendre des mesures très concrètes pour aller plus vite et plus loin. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est que de mieux soutenir les associations, de mieux les soutenir aussi en simplifiant leur vie administrative, en ayant une vraie reconnaissance. Le Premier ministre avait parlé de New Deal avec les associations, donc les soutenir financièrement, mais repenser avec elles, renouveler les pratiques et permettre, parce que ces associations-là, elles favorisent le lien social, mais elles sont aussi des vraies militantes de la citoyenneté. Et je crois qu'il est important que nous arrivions à mieux faire collectivement pour faire vivre le vivre ensemble, justement. Et ça a été une des demandes de différentes associations, mais c'est aussi une demande beaucoup des territoires. Et je crois qu'il faut que nous arrivions à être beaucoup plus dans le dialogue, dans l'échange avec les habitants, et la participation citoyenne, pour moi, est essentielle dans ce cadre-là. Mais pour faire vivre les valeurs de la République, notamment l'égalité, il faut qu'elles soient vécues au quotidien. Et elle sera vécue au quotidien quand il y aura moins de discrimination liée à l'embauche, par exemple. Elle sera vécue au quotidien quand on arrivera à faire reculer l'insalubrité, l'insécurité. Et c'est le cas. Voilà, on parlait tout à l'heure des questions de démolition de certains immeubles. Moi, j'y suis favorable, mais j'y suis favorable pour voir aussi très vite dans le quartier des grues et des jeunes embauchés sur ces chantiers.
Entouré d'élus locaux, régionaux, départementaux et municipaux, partenaires de la nouvelle politique de la ville, responsables associatifs ou encore habitants des Prés Saint-Jean, la secrétaire d'État a inauguré une nouvelle agence Pôle emploi implantée depuis 5 mois. L'occasion de l'interroger sur la présence de futurs services de l'État dans le quartier.
Ça sera dans le cadre du projet urbain qui sera fait localement. C'est-à-dire que là, il va y avoir un diagnostic de territoire. On va voir quels sont les manques sur le territoire. Et à partir de là, si l'ANRU doit financer un équipement public, doit financer, je ne sais pas, un commissariat, je ne sais pas quels sont les besoins du territoire, c'est le projet du territoire qui doit nous dire quels équipements publics doivent être implantés. En tout cas, je le vois, je visite des quartiers où on installe des maisons de santé, des centres de santé, des CAF, des antennes de la CAF, des CPAM, et le retour des services publics n'est possible que quand on recrée des postes aussi. Ici, c'est le cas, on a créé plus de postes pour Pôle emploi, notamment pour le suivi, l'accompagnement global, mais c'est aussi le cas, puisque nous recrutons plus de policiers, qu'on met en priorité dans les zones de sécurité prioritaire. C'est aussi le cas avec les enseignants. Il y a plus d'enseignants qui sont actuellement recrutés. Et donc, les habitants des quartiers de la politique de la ville bénéficient justement de cette présence renforcée dans les services publics. Les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas.
Un sujet réalisé par Yves de Fagot de Radio Griot Verte, une radio installée dans le quartier des Prés Saint-Jean à Alès.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Construire ensemble la fraternité dans le respect et la connaissance de l'autre. C'est le message inscrit sur la plaque de l'Olivier de la Paix, dévoilée à Nîmes le 29 avril par le comité interreligieux nîmois et la mairie, en présence du sénateur-maire Jean-Paul Fournier et de Didier Martin, le préfet du Gard. À cette occasion, Radio Alliance Plus a donné la parole à des responsables religieux présents avant de recueillir les propos du maire et du préfet.
Oui, donc nous sommes retrouvés ici à l'initiative donc, du comité interreligieux nîmois et de la mairie de Nîmes afin d'inaugurer une plaque qui est sous un magnifique olivier vieux de plusieurs centaines d'années. Avec cette plaque sera noté l'olivier de la paix, construire ensemble la fraternité dans le respect et la connaissance de l'autre. Voilà. Il nous a semblé que c'était important de manifester publiquement notre travail depuis plusieurs années sur Nîmes où nous œuvrons ensemble, juifs, musulmans et chrétiens, à la rencontre et à approfondir justement notre connaissance les uns des autres. Nous pensons que un des problèmes dans dans le dialogue interreligieux, c'est souvent la méconnaissance de l'autre et le fait que l'autre est réduit à des caricatures, si j'ose ce mot compliqué en ce moment. Voilà.
Vous êtes pasteur de l'église protestante unie ici à Nîmes.
Absolument.
Et vous avez des acolytes du comité interreligieux. Est-ce que je peux vous donner la parole? Vous pouvez vous présenter.
Monsieur le Moudnidris, président du conseil du culte musulman. Le Nîmois en général, et Nîmes en particulier, il a toujours été en avant. Et cette fois-ci, on a mis encore quelque chose de plus et en premier, c'est-à-dire de parler ensemble de quelque chose qu'on a bâti ensemble, c'est-à-dire le vivre ensemble sur place à Nîmes.
Merci. Et vous, monsieur ?
Alors, je suis donc Paul Benguigui, je suis le président de la communauté juive de Nîmes. Je suis un peu, disons, l'instigateur de cette association pour la fraternité et la compréhension entre les diverses religions, qui ne sont que complètement les mêmes, je dis bien complètement les mêmes, puisque l'une complète l'autre. Et nous avons décidé, comité donc interreligieux nîmois, d'œuvrer ensemble, pour que nous puissions nous comprendre sans avoir à nous opposer, tout en gardant nos différences. Et partant de là, essayer de faire un monde un peu plus équitable et un peu plus allant obligatoirement vers la paix, vers la fraternité. Et espérons que ce fait, cette plaque, cet olivier, soit vraiment l'olivier de la paix et que de cet olivier partent sur des rameaux d'olivier, la colombe, qui annoncera la paix dans ce monde en ébullition.
Un reportage de Christian Delors, président de Radio Alliance Plus. Un habitat plus durable en Afrique, c'est l'objectif de l'association héraultaise Voûte Nubienne. Un objectif salué et récompensé par le prix My Positive Impact de la fondation Nicolas Hulot. Depuis 15 ans, l'association construit des habitations en terre, plus de 3000 à l'heure actuelle. Pour Thomas Granier, cofondateur de la Voûte Nubienne, la méthode utilisée respecte l'environnement local. Il est au micro de RCF Héro.
C'est une technique qui permet de construire la totalité d'un bâtiment, toiture compris, entièrement en matériaux locaux, principalement de la terre, avec une main-d'œuvre locale dans des économies locales.
C'est-à-dire que vous formez les gens sur place?
Nous proposons et nous mettons en place tout un programme qui permet la formation par des maçons vers leurs apprentis et l'émergence de la demande par des populations informées, donc d'une clientèle. Donc en fait, notre mode de diffusion de la proposition technique, c'est mettre en place localement le marché de la voûte nubienne, le faire émerger et le faire grandir. D'un côté, une demande, des populations sont informées et sont accompagnés dans leur capacité à s'intéresser à cette architecture, et de l'autre, une offre, des maçons, des artisans maçons proposent leurs services à une clientèle et en forment d'autres. Nous accompagnons donc tout ce processus d'émergence du marché, de diffusion du concept.
Pourquoi ce concept de voûte nubienne dans cette zone de l'Afrique? Pourquoi là-bas?
Alors, autrefois, toutes les architectures traditionnelles, vernaculaires, architecture locale, utilisaient des ressources ligneuses, bois, paille, pour leur toiture, leur toit terrasse ou leur toiture. Et déforestation et démographie ont aujourd'hui interdit ces architectures traditionnelles. L'alternative qui est proposée aujourd'hui pour l'immense majorité des populations, c'est une toiture de tôle, totalement inadapté en termes d'économie, matériaux d'importation, en termes de confort, on imagine la tôle sous les chaleurs les plus vives, le froid aussi, la pluie, le vent, etc. Et puis en termes d'environnement, en termes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, en termes de culture, d'impact sanitaire, etc. Donc aujourd'hui, des centaines de millions de gens n'ayant pas accès à une architecture adaptée, c'est le pourquoi de notre programme.
Donc avec la solution que vous proposez, plus de bois, plus de tôle, mais une solution plus durable avec des matériaux sur place.
Exactement.
Est-ce que vous avez déjà une fourchette, un ordre d'idée de combien de maisons vous avez construites?
Alors on a plus qu'une fourchette, on sait assez précisément, heureusement, on a construit plus de 3000 maisons, on a permis la construction plus de 3000 maisons. Pour
depuis combien de temps
juste. Depuis une quinzaine d'années, dans 5 pays, donc le Burkina d'abord, puis le Mali, le Sénégal, et récemment le Bénin et le Ghana, et dans 14 régions de diffusion dans ces 5 pays.
Thomas Granier, cofondateur de l'association La Voûte Nubienne, interrogé par Romain Bercher, RCF Hérault.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Belle victoire pour le sport féminin montpelliérain. Troisième Coupe de France pour les basketteuses, troisième titre consécutif de championne de France pour les joueuses du MHR. Les gazelles de l'équipe de basket et les coccinelles du MHR ont reçu leur médaille sur le parvis de l'Opéra Comédie. Un moment de bonheur et d'espoir pour le sport féminin.
Voilà, mesdames et messieurs, les championnes de France de rugby et les vainqueurs de la Coupe de France.
Des sourires sur toutes les lèvres, supporters, entraîneurs, joueuses. C'est le cas de Gaëlle Mignot, capitaine de l'équipe féminine du MHR, couronnée d'une troisième médaille de championne de France.
C'est quelque chose d'exceptionnel, ça fait plusieurs fois qu'on gagne le titre, on n'avait jamais eu la chance de venir ici, le présenter au public et tout ça. Là, voir du monde qui sont venus, qui nous connaissent, qui nous applaudissent, c'est quelque chose de fabuleux.
De la joie, de la fierté, mais aussi l'occasion de mettre en avant le sport féminin. Souvent oublié pour Gaëlle Scrella, la capitaine de l'équipe de basket de Montpellier.
On est toujours moins médiatisés que les garçons et c'est vrai que ce genre d'événement avec deux équipes féminines qui gagnent deux trophées, c'est important de le faire savoir et d'être reçu à Montpellier. Donc voilà, on savoure le moment et on espère qu'il y aura quand même pas mal de monde pour venir nous voir.
Des victoires qui inspirent pour l'avenir, notamment pour cette joueuse en équipe cadette du MHR.
On se dit que dans quelques années, nous aussi, on y sera et qu'il faudra prendre la relève et qu'on voudra faire pareil. On est très contente et c'est un exemple à suivre. Nous sommes la relève et il faudra qu'on le fasse à fond et qu'on fasse comme elle.
Un reportage signé Lauriane Navarre de RCF Hérault. C'est la fin de ce carnet de région. Merci aux radios qui y ont participé et à très bientôt.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.